France Musique.
Tout le jour, toute la nuit, rien que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en moi tendrement je t'emporte, ô mon amour, nuit et jour.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. C'était dans 2009, j'étais un jeune producteur plein d'avenir. On m'avait envoyé à Rome à la Villa Médicis pour rencontrer des artistes qui là-bas se gobergeaient, faisaient les coques en pâte et travaillaient de temps à autre. J'avais rencontré un jeune écrivain plein d'avenir qui m'avait dit « Oh, qu'est-ce que j'aimerais faire de l'opéra ?» Puis j'avais rencontré un compositeur jeune, plein d'avenir, qui m'avait dit « Ah, mais qu'est-ce que j'aimerais faire de l'opéra ?» Il se trouve que presque 10 ans après, ils ont fait ensemble leur opéra, comme quoi l'art est long, le temps est court, comme disait je sais plus qui, Goethe, Baudelaire ou Céline Dion, je sais plus. Nous sommes ce soir avec Yannick Enel, Yann Robin et Léo Varinsky. Bienvenue à tous dans le Classic Club.
Thank you.
Et pitié de moi, Seigneur, de Aaron Copland, l'un de ses motets, qui est chanté par les membres des Métaboles, dirigé par Léo Varinsky. Bonsoir Léo.
Bonsoir Lionel.
Tu es venu me parler de ce disque il y a un an, c'est ça ?
Absolument.
Il y a cette
place
même, hein, pour parler de ça, de ce disque de musique américaine qui était super. Bon, on découvrait plein de choses, des grands classiques comme Barber et Copland, et puis d'autres que vous nous découvriez aussi à l'occasion, ce qui veut dire que Outre-Atlantique, c'est vivace hein, quand même, la tradition chorale, vocale. Hein.
Elle est très très vivace, en fait, très souvent reliée d'ailleurs à la tradition universitaire aussi. Il y a beaucoup de chœurs dans tous les universités aux États-Unis, dans les églises, ça chante aussi beaucoup. Et puis il y a une tradition très forte en fait qui a été héritée aussi de la musique gospel aussi, quand même, qui est très très forte là-bas. Et donc Copland d'ailleurs s'inspire en essayant d'inventer une espèce de nouveau folklore américain vocal.
Ouais, c'est marrant, à chaque fois qu'on écoute ces motets de Copland, il y en a plein là-dessus, enfin il y en a quatre, à quel point la musique est variée. Enfin, on a l'impression qu'à chaque pièce finalement on est sur une ambiance et puis une vocalité et puis un style différent.
Mais exactement, et je pense que de toute façon au XXe siècle, les compositeurs américains ont tous essayé de définir ce que pouvait être la nature d'un style américain de musique, et je pense que Copland en fait partie. Même s'il est venu en France, il est revenu aux États-Unis et finalement il a essayé de donner aux États-Unis leur lettre de noblesse et leur identité musicale.
Vous savez quel âge en 2009, Léo ? Vous étiez tout jeune,
j'étais fort jeune.
Oui, bah oui, c'est voilà. Ça, vous n'existiez pas encore. Après.
J'existais à peine, je devais avoir 26, 27 ans.
Oh là là là, mon Dieu, on ne le connaissait pas. Je salue donc Yann Robin et Yannick Hennel. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Lionel.
Ça fait donc quasiment 10 ans qu'on s'est rencontrés là-bas à la Villa. Ouais. Hein, on s'en souvient bien, c'était très chouette cette journée France Musique où j'avais découvert plein de gens, entre autres vous deux, l'époque que je ne connaissais quasiment pas. Dites-moi d'abord vos souvenirs de la Villa, c'est des bons ou des mitigés? Parce que souvent on a d'anciens pensionnaires qui reviennent en disant mais non, je me suis ennuyé pendant un an ou deux ans. Ah,
peut-être Yannick, tu peux en parler, toi tu y étais il n'y a pas longtemps. Moi je suis retourné, oui, mais l'année passée là-bas, c'est l'enthousiasme pur. Il n'y a rien de mieux enfin, d'être à Rome, payé, à écrire, à rencontrer des artistes, enfin. Quoi de mieux ? Moi, je signe pour la vie.
Tu as plus, vous aimiez l'Italie avant, vous, hein ?
Moi, j'aime l'Italie.
Ah, oui,
je voulais dire que j'étais amoureux d'une Italienne, mais je l'ai épousée, figurez-vous.
Oui, je sais, mais je crois en plus qu'il y avait eu un livre sur l'Italie. Non, c'est depuis qu'il y a eu l'Italie.
C'est une passion assez commune.
Oui, c'est vrai.
Mais chez les Français. Mais oui, la question italienne, c'est l'autre nom de l'art, voilà, c'est tout.
Tout simplement. Oui. Yann Robin, et vous vous êtes ennuyé là-bas ? Vous avez écrit ? Vous avez fait quoi ?
J'ai beaucoup écrit là-bas, oui. Ouais. J'ai sérieusement écrit, je me suis beaucoup enfermé, peut-être même trop. Je suis pas assez sorti de la villa, en fait, pour aller visiter l'Italie, quelques fois quand même. Mais finalement, je suis pas mal resté enfermé. Et c'est vrai que c'était un lieu totalement introspectif, un révélateur de soi, qui en fait permet d'énormément avancer. C'est-à-dire qu'il y a l'avant-villa et l'après-villa. D'ailleurs, je crois, Yannick, tu as un livre comme ça, Le sens du calme, qui s'arrête à la villa. En fait, qui est un.
Oui, parce que c'est un moment de naissance, comme tu es en train de le dire, oui, de révélation d'un rapport à soi qui renaît par le travail, au fond. Jamais autant travaillé, toi aussi, je crois, parce qu'effectivement, on se voyait le soir pour parler.
Beaucoup.
Pour fêter aussi, mais pour
célébrer, vous voulez dire.
Pour célébrer, voilà.
Peur, ouais,
dans l'ordre de la louange. Enfin,
c'était des fêtes païennes qui n'avaient
pas
vu
du tout, voyons, jamais, mais vous voulez rire.
Oui, fait peur. Vous me rappeliez à l'instant, Yann Robin, c'était juste pour le tremblement de terre de l'Aquila. Hein. C'était,
pas à la Villa, mais à l'Aquila.
Non, absolument, à l'Aquila, c'est ça. Oui, c'est ça. Deux jours après, il y avait le tremblement de terre.
Exactement.
On a vécu ça.
On a vécu ça, même avec les petits clics dans les ondes qui étaient des signes avant-coureurs, en fait, ce qui allait se passer deux jours après.
Ouais. Mais vous l'avez vécu dans votre lit, vous me racontiez. Hein.
Et oui, je l'ai vécu dans mon lit, avec une mezzanine qui bougeait dans tous les sens, un lit qui bougeait également lui aussi. J'ai cru vivre une expérience, on va dire, surnaturelle pendant l'espace d'une demi-heure, oui.
Une demi-heure, alors que le tremblement de terre
durait 5-6 secondes, mais il a fallu le temps de s'en remettre. Et puis, finalement, c'était un
tremblement. Mais tu écrivais Vulcano, non, à l'époque, non ?
Non, c'est à la suite de ça.
C'est à la suite de ça.
Ah bon ? C'est à la suite de tremblement de terre, vous avez écrit Vulcano ?
Non, mais c'est déjà prévu à l'avance.
Ah d'accord, ok, pardon.
Mais bon, ça l'a confirmé le fait que je devais faire ça.
Mais je vois bien que dans la nuit, vous avez eu une sorte d'expérience mystique après le tremblement de terre.
Mystique, je ne sais pas, mais en tout cas, effrayante. Effrayante.
Bon. Léo Varinsky, comment vous êtes greffé à ce groupe-là et quand, à quel moment ?
Eh bien, la Villa Médicis, c'est un point commun, en fait. Oui, oui. Alors, en fait, j'étais allé à Rome pour écouter un opéra, donc c'est tout à fait pour autre chose.
Ouais.
Et je savais que Yann Robin, que je connaissais déjà par ailleurs, y était à la Villa Médicis. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller lui rendre visite. Et je lui avais soumis, d'ailleurs, à l'époque, l'idée de fonder un chœur, en fait, que multilatéral, qui existait déjà, l'ensemble donc que je dirige maintenant, qui existait déjà, qu'on y agrège un chœur pour qu'on ouvre le répertoire de la musique contemporaine aussi au chœur. Et voilà, donc il y a effectivement un lien avec la Villa Médicis.
Comme tout compositeur sérieux, il vous a dit non, que je ne compose pas pour un chœur, moi je fais juste pour des ensembles instrumentaux.
je te dis non. Débrouille-toi, tu sembles avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, vas-y, ouais. Tu es libre, tu as carte blanche.
D'accord.
Et un an après, j'ai fondé les Métaboles finalement.
D'accord, voilà. Avec l'espèce de bénédiction.
Avec la bénédiction, Urbi et Orbi, je pourrais dire, Urbi et Orbi de Yann Robin.
À Rome en plus, c'est le meilleur endroit.
Les Métaboles, c'est donc l'ensemble instrumental, non c'est l'inverse, multilatéral c'est l'ensemble instrumental, les Métaboles, l'ensemble vocal réuni pour Papillon Noir, le Papillon Noir, avec l'article, faut pas l'oublier devant, texte de Yannick Enel, musique de Yann Robin, c'est Léo Varinsky qui dirigera cela, on verra la première à Marseille, on va reparler tout au long de cette émission, illustré par, eh ben, entre autres, les Métaboles et vous, il y a deux disques jusqu'à présent, en tout cas pour votre ensemble vocal, Léo Varinsky, l'un pour la musique américaine, l'autre pour la russe.
Thank you.
Au Salutaris Ostia de Vitotas Miskinis. Je ne cherchais pas ce nom-là. Les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky, dans votre programme Mysterious Nativity. Enfin, je rigole sur le nom parce que je ne connais pas le bonhomme, mais c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre.
Ah, ouais. C'est une très belle pièce.
Ouais. Ouais. Toutes les pièces que vous nous découvriez là-dedans aussi. Bon, Schnitko, on connaissait le nom évidemment, mais Sviridov, Tchesnokov, qu'on écoutera tout à l'heure, Sviridov. Enfin, je ne sais pas où vous allez chercher tous ces. Tous ces compositeurs-là, quoi.
Mais je me demande aussi.
Bah oui, ouais.
C'est des compositeurs que j'ai découverts beaucoup par Tchesnokov, justement, Dimitri Tchesnokov, qui a été un des premiers compagnons de route des Métaboles, qui est un compositeur d'origine russe, qui
est encore vivant,
en France. Oui,
il
est tout jeune, il a mon âge. Donc il est très jeune.
Ah bon, d'accord. Oui. Je disais, avec cette musique, ce doit être un type à barbe, qui a 70 ans, ou qui est mort, ou 80 ans.
Absolument pas. Non, il est très. Mais il est russe. Donc les Russes ont toujours un lien à la tradition qui fait qu'on peut avoir l'impression, des fois, qu'ils ont une barbe très longue.
D'accord, c'est ça.
Encore
un côté patriarchique.
Voilà, exactement.
Naturel.
Voilà. Un lien avec le passé, en tout cas.
Il fait de la belle musique et vous la chantillez fort bien. C'était ce programme donc, que vous avez enregistré il y a 4 ans pour le label Brilliant Classic, dont on avait dit évidemment beaucoup de bien dans cette émission. Je reviens à Yann Robin, compositeur, et Yannick Enel, l'écrivain, pour dire, bon, ça fait 10 ans, si je comprends bien, que vous êtes rencontrés quasiment. Comment ça s'est fait l'opéra? Dans mon souvenir, vous en parliez déjà un peu à l'époque, non Yannick? Vous adoriez la musique, hein, ça je m'en souviens très bien.
Oui, disons que j'aime autant John Coltrane que Schoenberg. Ouais. C'est ça qui m'a plu chez Yann Robin tout de suite, c'est qu'il a, si je me souviens bien, tu as été pianiste de jazz en fait. J'avais l'impression que ça se sentait dans sa musique et surtout, pour une fois, je me disais, voilà enfin un compositeur qui est aussi un peu, si je puis me permettre, un peu punk ou qui est aussi un peu métal, je sais pas comment dire ça. Moi, ce que j'aime dans la musique de Yann Robin, c'est le côté propulsif, enfin la saturation, enfin ça y va. Enfin,
c'est pas de sauvagerie.
Voilà. Et je ne sais pas si ça manque ou pas dans la musique savante, comme dit Rimbaud, mais en tous les cas, moi, ça m'a comblé immédiatement. Et je voyais les paysages troués, les abîmes, les spasmes. Je voyais ça en termes d'écriture, en fait. Ouais. Je me sentais très voisin ou ami, disons, de cette musique. Et voilà, j'ai eu la chance d'entendre à Strasbourg, je crois, à Musica, Vulcano. Et bon, ça m'a transporté, voilà, comme je l'avais rarement été. Enfin, je l'avais été les dernières fois, bon, à part des concerts de rock, disons. Je l'avais été par du Boulez ou du Alban Berg. Et voilà, je me suis dit, faut qu'on travaille ensemble.
Et
c'était l'évidence.
Immédiatement donc sur l'opéra, Yann Robin. Quand on rencontre un écrivain, on pourrait dire, de la mélodie.
Ben, pour moi, l'opéra était un lieu impossible à atteindre. Et quand j'ai rencontré Yannick, on a commencé à la villa, à échanger, à passer du temps ensemble. Et juste avant qu'il parte, il venait de terminer Yann Karski, on était à la rentrée littéraire. Il a passé du temps chez moi. On a essayé de réfléchir à ce qu'on aimerait faire ensemble. Lui, un texte, moi, de la musique. Bon, la question de l'opéra s'est posée. Et puis, bêtement, nous sommes partis par ma faute sur des sujets préexistants. Et donc, et chaque sujet préexistant que nous avons évoqué, que j'amenais, moi, personnellement, atterrissait dans une impasse, aboutissait dans une impasse.
Vous vouliez du mythe, c'est ça, quelque chose?
Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait les vampires, il y avait Twin Peaks. Ouais. Moi, j'ai revu tout Twin Peaks pour le mettre en texte. Et
c'est ça, il y avait Lovecraft.
C'est une belle idée, d'ailleurs, mais quelqu'un d'autre le fera. Enfin,
peut-être.
Lovecraft.
Et puis, en fait, il y a 3 ans, on faisait un dîner chez moi, et puis...
Dante,
mais ça, c'était l'impossibilité de la linéarité de la non-dramaturgie qui empêchait en tout cas d'aller là. Mais et donc voilà, à la suite d'un dîner, Yannick, je lui dis, bon, en fait, j'ai quand même un écrivain qui est pas mal à côté de moi, dont j'admire beaucoup le travail. Fais-moi un texte, faisons un texte. Et là, Yannick s'est libéré totalement et le texte est arrivé.
Ouais. Il est arrivé tout seul, pardon, il est en train de vous dire le texte est arrivé comme si Yannick.
Par la poste, voilà.
C'est ça, oui.
Exactement. Il a pris quelques mois.
C'est ça,
comme dans Twin Peaks, voilà.
On est payé à la villa, le texte arrive par la poste, c'est tranquille, la belle vie. Hein.
Et vous disiez, Lionel, c'était des mythes. Et justement, c'était l'objectif aussi de Yannick, de créer un mythe, créer une héroïne, créer un personnage.
Oui. Au fond, je n'ai jamais écrit pour le théâtre. Et donc, je n'ai jamais écrit pour la voix. Et là, d'un coup, quelque chose, grâce à la musique, grâce au support de la musique que je n'ai pas entendu, que je devais inventer moi-même, que je devais fantasmer, c'était comme si cette femme... Parce que depuis le début, c'était cette idée, au fond, j'allais écrire pour une voix seule, une voix féminine.
Et de femme, donc, tout de suite.
Je ne sais pas pourquoi, c'était l'évidence. parce que j'aime des voix comme celle de Barbara Nigan. Enfin, ça me fait rêver, ça m'instruit. C'est ce que j'entends la nuit, disons. Ouais. C'est pour ça que ça s'écrit. Comme ça, je me réveille le matin, c'est fait. Comme le croit Yann. Et puis on s'est dit que ça allait être, voilà, ce qu'on appelle un monodrame, je crois.
Ouais.
Et j'ai beaucoup d'admiration pour Erwartung de Schoenberg. Mm. Et pour Cassandre aussi de Jarel.
Jarel,
ouais. Et puis pour rien, pour la musique à venir. Et peu à peu, et c'est le fruit de notre conversation, ça j'y tenais beaucoup, on a inventé à deux un personnage qui n'est peut-être pas seulement qu'une femme d'ailleurs, c'est peut-être aussi un peu un homme, on ne sait pas très bien. C'est une voix indéterminée, en tous les cas dite par une femme. Mmh. Et il s'agit, je suis un peu embarrassé parce que je veux pas tout raconter, parce qu'il y a aussi un mystère, disons, qu'on va essayer de délivrer, si je puis dire. Mais ça parle de la chose la plus irreprésentable au monde, à savoir l'instant où on n'est plus en vie. Mmh. Et je me dis que si, c'est ce que je recherche en littérature, enfin, d'échapper à la représentation, d'échapper au cadre. Et je me dis que la musique y pourvoit de manière plus juste. Et en tous les cas, s'il s'agissait de faire un opéra, voilà, autant que ce soit sur de l'irreprésentable.
On va revenir là-dessus. On va écouter, puisque vous évoquiez tout à l'heure Vulcano, cette pièce de Yann Robin, on va en écouter un petit extrait. On entend plein de choses dans cette musique. Il y a des insectes, ça vrombit, c'est tellurique par certains moments. On en prend plein la face quand on est. D'ailleurs, les musiciens doivent en prendre pas mal aussi. Yann Robin, dans ce Vulcano qu'on vient d'entendre.
Le niveau sonore sur scène, effectivement, était assez élevé.
Ah ouais, Oui, c'est pas ça le plus important, parce qu'important, c'est ce côté finalement qui a l'air de manier des masses absolument sidérantes. Ça me fait toujours penser, quand j'écoute cette pièce-là, à Kraft de Lindbergh, dans quelque chose comme ça. On prend des grandes masses et puis on fait se confronter, tout ça. C'est un peu ça, non?
Oui, c'est souvent ça, dans ma musique, en fait, de manière générale, c'est les choses qui ressortent, les choses qui m'attirent, les choses que j'ai envie de créer. Ouais. Espèce de chaos, quelque part, de musique massique, on va dire.
Comment vous dites?
Massique.
Massique? Pourquoi massique?
Pour reprendre, c'est un terme qui vient essentiellement de la musique Xenakis, en quelque sorte. Ouais. C'est un terme qui était très employé dans des musiques de masse informe, difforme, qui évolue dans le temps, qui se déforme.
Ouais. Est-ce qu'avec une musique comme ça, le compositeur nous parle, je ne sais pas, comme au temps de Schumann, de ses amours, ou des ruisseaux qui coulent dans la,
ouh là là, quels
dans
amours,
la forêt? Non, je ne sais pas.
Le pensez-vous?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
Je n'en ai pas l'impression. Si c'est de l'Eros, alors c'est Héphaïstos, c'est le maître des forges.
On est bien d'accord, c'est lui.
Vous voyez le côté métallique de ses amours. Enfin, c'est un peu effrayant, disons, mais c'est aussi la belle violence. C'est dans les Illuminations de Rimbaud qu'il y a cette trilogie. L'élégance, la science, la violence. Je trouve que quand on met les trois ensemble, il y a quelque chose qui peut te convenir. Enfin,
je suis très touché.
Non, mais c'est vrai, le maître des forges, vous avez devant vous, le maître des forges.
Mais en tout cas, la musique, elle fait bien ça. Hein.
Mais oui, le volcan, ouais.
Vous avez vu la partition en main, enfin celle du prochain opéra donc de Yann Robin, qui sera aussi le premier. Léo Varinsky, vous l'avez eu en main déjà. Ça ressemble à ça? Ça a l'air de ressembler à ça? Vous l'avez lu comment, vous?
Oh, ça, c'est un avant-goût de ce qu'on va voir dans le Papillon Noir, je pense. Oui. Ça va beaucoup plus loin dans le Papillon Noir.
Ah oui. Mais avec beaucoup moins d'instrumentistes.
Moins d'instrumentistes, mais il y a un chœur. Et il y a un chœur qui va être traité de manière totalement incroyable, en fait. Parce que tout à l'heure, Yannick parlait de Yann qui est marqué par la musique, je sais pas, du jazz, Coltrane, mais aussi du rock ou du métal. Eh ben, il a incorporé Yann dans l'écriture vocale, en fait, du chœur, des éléments qui sont pris dans cette musique-là. Oui. Donc, le chœur va chanter de façon un peu incroyable. Et en fait, finalement, on va retrouver cette énergie tellurique, quasiment dionysiaque, dans l'écriture de chœur. Donc oui, ça va aller très très loin, je pense.
Il y a, comme c'est un monodrame, il y a une chanteuse, enfin une chanteuse actrice, elle fait les deux, hein, Élise Chauvin en même temps, et puis le chœur, lui, va faire quoi? Il reprend les textes du monodrame, justement, Yann Robin, ou c'est complètement autre chose?
Il y a deux niveaux, en fait. Il y a le niveau du texte de Yannick, donc de l'actrice chanteuse, représentée par Élise Chauvin, et comme, on n'a pas trop défini un petit peu le contexte de cette chose-là, mais c'est un travail sur la question du bardo, donc du passage, de l'état intermédiaire, donc le bardo Tödöl, qui est le livre tibétain des morts, qui veut dire le grand guide par les coudes dans l'état intermédiaire. Et donc, cette actrice chanteuse était dans un certain état, et le chœur, lui, en fait, elle est dans un état intermédiaire de passage. Et il y a le chœur qui, en quelque sorte, représente ce que serait un lama du monde des vivants, qui s'adresserait à un défunt, en quelque sorte. Voilà, et s'adresse très souvent en récitant des mantras, des mantras sept syllabes pour la plupart du temps.
Avec des om, des trucs comme ça.
Et le om, qui est le son original. Mais donc, j'ai pris ça comme matière, on va dire, sonore, et je le traite d'une certaine manière. On est loin de la psalmodie que l'on peut entendre chez les Tibétains. Mais pour moi, c'est mon matériau de base qui est symboliquement utilisé en fonction du texte de Yannick, qui n'était pas au courant spécifiquement des mantras que j'allais utiliser dès le départ. Et que j'en utilise 26 mantras différents.
C'est des phrases très simples, c'est ça, en fait,
Des fragments, des om, ma, ni, pad, me. Et c'est vraiment des phonèmes qui sont finalement, pour un compositeur, extrêmement utiles et extrêmement riches. Et qui permettent leur richesse et en même temps leur simplicité, ça permet d'aller extrêmement loin avec, extrêmement loin avec la vocalité, et être aussi bien dans la vocalité que dans le timbre pur. Et ça permet de guider, en tout cas, le cœur.
À partir de quelque chose d'assez rudimentaire, on le comprend bien. Enfin, en tout cas, ce qui est le matériau.
En quelque sorte.
Ah ouais, en quelque sorte. Parce que la manière dont vous le faites, c'est pas rudimentaire.
Je ne sais pas, j'ai pas l'impression, d'après ce que me dit.
Non, parce que j'ai regardé la partition de tout à l'heure.
C'est pas rudimentaire.
Moi, quand j'ai vu du 12-4 et en dessous 12-3, je me suis dit, ça, j'arriverai jamais à le faire. Par exemple.
Non, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Yann aime intégrer des éléments que dans la technique classique, on a tendance à vouloir bannir, tous les granulations, les bruits, tout cela. Et en fait, non, il utilise justement ça comme matériau, et c'est ça qui développe, et c'est ça qui est la base de l'idée musicale.
Les premières mesures du Speminalium de Thomas Tallis par les Tallis Scholars, musique qui a été choisie ce soir par Yann Robin. C'est pas parce que vous composez pour le chœur, mais un peu quand même, peut-être parce que ça représente aussi cette musique pour vous, Yann.
Oui, écrite en... On n'a pas la date exacte, je crois, c'est après 1560, parce qu'il y avait Sri Gio qui avait fait déjà une heure à 40 voix, il me semble, à cette époque-là, et en 1561 de mémoire.
40 voix réelles, bien sûr.
40 voix réelles,
ça, c'est pour ça qu'on précise.
Oui, bien sûr, 40 voix polyphoniques et réelles. Et en fait, c'est une pièce qui m'avait énormément touché quand je l'ai découverte, dans le sens où il est toujours défini, très, très difficile de définir ce qu'est la beauté. Ouais. Et quand je parle, je pense à cette notion de beauté, je pense à cette musique-là. Et de plus, c'est une musique qui est extrêmement... je parlais de massique tout à l'heure. Pareil, il y a des grandes masses comme ça vocales qui s'enchaînent dans une espèce de spirale de tourbillon. Et je me sens très proche de ces choses-là et j'aurais aimé écrire une pièce comme ça.
Il fallait juste naître 5 siècles
quelques,
plus tôt,
c'est quelques siècles avant.
Et oui.
Voilà. Et cette pureté aussi dans la voix, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à ma propre écriture. Ouais. Être, on va dire, dans les deux pôles, pureté et impureté totale.
Alors que vous aurez tendance à penser que vous êtes plutôt dans l'impur, au moins dans quelque chose qui est dans
plus rugueux, c'est ça, de plus. Voilà, donc il y a ces deux.
Peut-être que les deux se complètent, ouais, pas des pôles.
Comment se rejoignent-ils? C'est surtout la question. Ouais. Le passage.
Et au-delà de la réconciliation, il y a peut-être quelque chose qui l'emporte. Enfin, l'indemne, c'est-à-dire ce qui étymologiquement relève du nom d'année, ce qui échappe à l'enfer. Mmh. L'indemne, ça vient de du fracas entre l'enfer et le paradis, enfin entre le pur et l'impur, comme vous dites. Je pense qu'il y a une forme d'innocence à réinventer. Enfin, l'innocence, ça peut être dans la violence, enfin, elle peut être dans le fracas, elle peut être dans la syncope, dans le spasme, comme tu le fondes. Et moi, ce qui m'intéresse pour cet opéra, Le Papillon Noir, qu'on a fait, là, j'ai hâte de l'entendre, enfin, la première à Marseille, c'est la manière dont une femme, au moment où elle meurt, mais peut-être au moment où enfin elle se réveille, elle se met à vivre, on ne sait pas, parce que les Tibétains, dont c'est tiré du livre des morts tibétains, la mort est un réveil aussi, c'est une nouvelle vie. À ce moment-là, irreprésentable, il y a de multiples voix qui se diffractent. Toutes les voix de notre vie, toutes les voix qu'on a rencontrées, toutes les voix qu'on a en nous et qu'on fait naître, en se dissolvant, elles éclosent. Mmh. Elles éclosent, on dit ça ? Mmh. Elles éclosent. Et j'attends ça avec impatience parce que je pense que seule la musique est capable de créer cette dissolution et cette éclosion qui coïncident. Mmh. On fait ce qu'on peut en littérature, mais c'est sur une page. Enfin, c'est un peu presque timide. Pour écrire ce long texte qui va durer 1h15, 1h20, je crois.
1h30. Ouais.
Je me suis imbibé, si je puis dire, de Beckett, parce qu'il est celui qui a poussé le plus loin la voix dans ses retranchements en littérature, donc la lettre de la voix, enfin, ce qu'on ne peut qu'écrire, malheureusement. Et voilà, je pense que tout ça doit être démultiplié par de la musique et par les chœurs, donc j'attends tout de cet opéra.
Et de ce qu'ils vont faire.
Mais absolument.
J'ai pas dit les dates encore. Tiens, ce sera pour ce Papillon Noir le 12 mai, donc à Marseille, au Théâtre de la Criée, avec Multilatéral, Métabol, la direction de Léo Varinsky, Élise Chauvin et Arthur Noziciel qui met en scène, parce que la première, ce sera donc mise en espace.
Mise en espace cette fois-ci, mais peut-être une mise en scène plus tard, dans
19-20, oui.
Et puis le 18 mai, donc, ce sera à Gennevilliers qu'on reverra, cette fois-ci en version concert, qu'on entendra donc ce Papillon Noir. Je n'ai même pas interrogé sur le titre.
Alors écoutez, c'est
Yannick Kennel.
J'ose à peine le dire parce qu'il y a la version profane et la version sacrée du film, de l'opéra.
La version profane,
c'est Serge Gainsbourg. Figurez-vous qu'il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Les Papillons Noirs, joué par un groupe de rock qui s'appelle Bijoux. Oui. Jouer au XXe siècle, je suis un homme du XXe siècle, je crois.
Oui.
Et la version sacrée, et la version réelle, au fond, c'est que le papillon noir, c'est la dernière lueur pour moi, au moment où tous les mots se désintègrent, où le langage n'a plus lieu, où les lucioles, les dernières petites lumières de la vie s'éteignent les unes après les autres, il y a un dernier coup d'aile, comme dirait Mallarmé, un dernier coup d'aile, c'est le papillon noir. Et ça s'éteint. La mort est peut-être très simplement une suppression, comme si on éteignait la lumière, au fond. Et voilà, donner à voir ça, donner à voir une extinction jubilante, une extinction explosive, c'est un peu le pari.
Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
22h38, vous écoutez le Classic Club, nous parlons du Papillon Noir, ce qui sera cet opéra de Yann Robin qu'on pourra voir dans quelques jours à Marseille. Et on va revenir pour en recoser encore à Léo Varinsky et à ses métaboles. La musique de Dmitri Tchesnokov, l'un de ses chants sacrés, toujours par les métaboles de Léo Varinsky. Un programme que vous referez, si j'ai bien noté, le 16 juin. Ce sera au Festival des Voûtes Célestes en Vendée, hein, Léo.
Tout à fait.
Hein, parce que vous faites tourner ce programme, Mysterious Nativity,
oui,
il y a pas mal.
Absolument.
Hein.
Oui, donc on va le chanter. On le chantera même en Alsace quelques jours avant le 12 juin. Ouais. Voilà.
Ouais. Yann Robin, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que, si, je l'ai dit en plus, que c'est votre première tentative, oui, d'opéra. Vous avez hésité longtemps, c'est ça, à aller à l'opéra pour des questions de peut-être, je sais pas, de rapport au texte. C'est toujours une question, quand même. Comment on met la voix, le texte, la parole en musique?
Plus que le texte, c'est la voix. Ouais. Est-ce qu'on fait du texte avec la voix qui est problématique pour moi, notamment en français, toute la prosodie en français est toujours un problème. Et à travers mon propre langage, quand on écrit, c'est capable de se retrouver au travers des différents instruments. Je pense avoir résolu pas mal de questions par rapport à moi-même, au niveau des cordes, au niveau des cuivres, au niveau des vents de manière générale, aux percussions. Mais la voix a toujours été un grand mystère, un immense mystère. Et dans l'opéra français, on va dire proche de nous, même s'il y a des œuvres magnifiques, je n'ai jamais été en tout cas convaincu par les choses que moi je pourrais faire à l'intérieur de ça. Mmh. Ils ont la dernière personne qui a réussi à me convaincre profondément, c'est Debussy dans Péléas, dans le sens où le français, la manière de traiter en tout cas la vocalité, qui est totalement en opposition avec la manière de Wagner de traiter en tout cas la voix, qui est où Wagner applique en fait des motifs, donc ces fameux leitmotifs à chacun, ouais, de ses personnages. Lui, Debussy applique un même procédé vocal à tous ses personnages, une espèce de note répétée qui se termine par un intervalle ascendant ou descendant. Et ce que je qualifierais d'antilyrisme en quelque sorte, et ce lyrisme étant rattrapé par la masse orchestrale derrière. Voilà, donc pour moi, il avait trouvé une solution différente avec la vocalité et la prosodie en français.
Et depuis, on n'a rien trouvé d'autre.
Mais ça, j'en suis pas à ce niveau-là, mais j'ai rien trouvé de satisfaisant par rapport aux choses, ouais, que j'avais envie de développer moi-même au travers de mon propre monde. Mmh. Et finalement, quand j'ai pensé antilyrisme, j'ai commencé à travailler dans éliminer toutes les choses que je ne ferais pas. J'ai beaucoup écrit. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion de travailler sur la voix purement parlée, mais articulée rythmiquement et précisément écrite, en supprimant, en gommant tout ce qu'il y avait d'intervallique. Et travailler vraiment sur une espèce de détraitement de la voix, de délyricalisation de la voix, de dévocalisation en quelque sorte, compensé par justement un surtraitement de l'ensemble et surtout un surtraitement de la voix dans le cœur.
Ouais, c'est ça. Comme si vous découpliez finalement le côté rythmique et parlé pour la voix et puis simplement la vocalité.
Mais qui se rapproche vraiment de la réalité. Mmh. C'est-à-dire que quand Élise Chauvin, l'actrice chanteuse avant tout, et merveilleuse actrice surtout aussi, a découvert le texte, mais en fait c'est très naturel, très la manière dont est écrit le rythme tout le long est extrêmement précis et je le dirais comme ça. Et finalement, ce que ça a permis de mettre une chose en avant, c'est-à-dire que les chanteurs ou les chanteuses, de manière générale, se doivent d'être d'excellents chanteurs et d'excellentes chanteuses, mais aussi de grands acteurs et grandes actrices. C'est pas évident de faire les deux, mais vraiment. Et là, en fait, ce qui est plus mis en avant, en quelque sorte, c'est cette dimension d'acteur et d'actrice. Mais pour terminer, c'est la chose qui est impossible, c'est qu'un acteur qui n'est pas chanteur ne pourra jamais jouer ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une métrique qui se déroule pendant une heure et demie avec le chef, et il peut vous en parler, et seuls des musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, sont capables de suivre la métrique du chef.
Parce qu'elle est compliquée, Léo, la métrique ? Très ?
Oui, compliquée et un peu faible, même, je trouve. Il faudrait inventer un nouveau mot, peut-être, pour la métrique de Yann Robin. Oui, c'est très virtuose, ça change tout le temps, de mesure, de battue, mais en même temps, c'est ça qui est très excitant et presque amusant, même, à faire.
Mais il y a un truc, Yann Robin, comme quand on va à l'opéra, le truc, c'est que, beaucoup plus que la musique instrumentale, on se confronte soudain aux autres. Un truc qui s'appelle l'appareil de production, un écrivain, à un metteur en scène, à un chef qui a peut-être des idées. Hein, ça vous plaît, ça, ou ça vous embête ? Que les autres puissent avoir, je ne sais pas, une manière de mettre la main sur votre œuvre à vous.
Alors vous savez, il y a toute une temporalité, il y a tout un enchaînement en fait, d'événements pour pouvoir arriver à l'objet final, si j'ose dire. C'est qu'il y a un écrivain qui impose un temps littéraire. Il y a un compositeur
et tout le monde s'y fait à côté.
Non, pas du tout. Un compositeur qui s'empare de ce temps littéraire, qui transforme ça en temps musical. Et puis il y a le metteur en scène qui arrive après, le pauvre, et puis il se doit de faire quelque chose avec ça. Et donc du coup, il y a des compromis à trouver entre les trois parties.
Oui, c'est ça. Bah oui.
Et puis il y a un chef au milieu qui doit arbitrer.
Voilà.
Et puis le chef, il y a un penchant ou plus vers l'écrivain, ou plus vers le compositeur, ou plus vers
c'est peut-être pas une question de personne, peut-être qu'il pense à la chose même, mais auquel cas c'est bien, tout le monde s'y retrouve.
Alors, ça dépend comment on y pense, si c'est pour des raisons artistiques ou pragmatiques.
Ouais, Léo.
Mais je crois qu'on continue un process finalement qui remonte à la nuit des temps. Enfin, je crois le débat entre le compositeur, le librettiste, le chef d'orchestre, l'interprète, le metteur en scène. Finalement, on doit toujours affronter la chair du réel au bout d'un moment quand on fait vivre ses œuvres. Effectivement, il y a toujours des débats.
Parce que chacun arrive avec sa logique, évidemment.
Absolument.
Mais le tout, c'est d'arriver à avoir un objet commun au bout du compte. Parfois, en effet, ça demande du compromis, comme vous le dites bien.
L'objet commun est là, fait.
Et l'objet commun, c'est le compositeur qui l'a fait.
Mais je n'oserais pas affirmer ce genre. Voilà, mais bon, sans le sens.
Comme un.
Pardon.
Comme un.
C'est ça, oui. Mais comme quoi, l'histoire de l'opéra, c'est toujours la même chose qui se répète.
Non, mais après, on va voir.
Non, mais c'est travail collectif, ça se conçoit. Voilà,
il y a même des opéras sur l'histoire de l'opéra.
Absolument. Voilà. Mais en général, c'était plutôt entre le librettiste et le compositeur que ça bourrait la gueule, parce que chacun avait ça, encore une fois. Hein, voilà, pris mal à la chose ou pris mal à autre chose. Morton Feldman, lui, s'embêtait pas. Je crois qu'il faisait toujours sur des voyelles, comme ça, il n'avait pas de problème avec le texte. Christian Wolff in Cambridge, une pièce de Morton Feldman qui était chantée ici par les Métaboles de Léo Varinsky. On les retrouvera tous lors de la création de ce Papillon Noir de Yannick Quesnel et Yann Robin le 12 mai à Marseille à La Criée. Ce sera en version représentée et puis version de concert le 18 mai. Ah, Gennevilliers, juste un mot, je suis en train de penser tout d'un coup, Yannick Quesnel, en fait, tous vos narrateurs, c'est toujours un type qui est en train de devenir écrivain. Il porte toujours le même nom d'ailleurs, hein. Jean Deschelles, c'est la première fois du coup que vous écrivez dans la voix d'une femme pour cet opéra.
C'est vrai, mais j'aimerais continuer ça. J'ai beaucoup de... Enfin, je pense comme Flaubert que c'est le moment où on devient Emma Bovary, que, que quelque chose se passe réellement. J'attends mon Emma.
Ah oui.
Et c'est une première esquisse que Yann Robin a suscité. Je vais sans doute écrire un roman
dans la voix
première
d'une
personne
femme.
Féminine. Mais surtout, on aimerait ensemble faire quelque chose d'encore plus tonitruant, d'encore plus effractionnel, si je puis me permettre d'inventer un terme. Un opéra encore plus grand, voilà. Mais la voix féminine, oui, c'est la grande chose pour un homme.
Ouais. Sur le fils du long, vous avez mis du temps à y aller. Comme c'est par l'opéra, vous y arrivez.
Mais c'est du travail.
Ah oui, monsieur. Mais, je ne sais pas. Hein. Je ne peux même pas imaginer que ça dans cette tête-là. Moi.
Et encore le doute.
Pardon,
le doute persiste.
Le doute.
Ah, le doute persiste.
J'ai cru
le loup.
Non, le loup,
le
non.
Le loup se faufile, la louve.
La louve.
Oui, est-ce vraiment une femme, oui. Mais je n'ose pas trop en dire. Il faut que vous
alliez, bien sûr, il faut qu'on aille voir le papillon.
Verrez, vous entendrez.
Il y aura un autre spectacle après que vous ferez avec les Métaboles, Léo Varinsky et Raphaël Sindeau. Ce sera au mois de juin qu'on pourra voir ça. C'est un opéra aussi, c'est ça?
Non, alors là, c'est plutôt une forme, un objet musical non identifié, a dit Raphaël Sindeau pour se débarrasser un peu de cette question-là.
Tranquillement.
En fait, c'est un spectacle qui va mettre en scène donc des chanteurs des Métaboles, multilatéral, encore une fois, l'ensemble multilatéral, et l'Orchestre National de Jazz. Ouais. Donc une rencontre insolite entre ces trois ensembles. Et tout ça porté par un homme qui n'est pas sans conséquence, c'est Rodrigo Garcia. Donc avec des textes très forts, en fait, c'est plutôt des espaces d'aphorismes sur le temps présent, très subversifs, beaucoup d'humour, un humour très... très sarcastique, très noir parfois, et donc c'est ce texte-là qui va porter cette œuvre et qui va porter la rencontre de ces trois ensembles.
Mmh. Le titre, c'est bien Le jour avant l'océan.
Le jour avant l'océan, voilà.
Qui sera donné à Gennevilliers le 29 juin. Juste avant l'océan, c'est ça. Et vous êtes dans la partie aussi, du coup, comme vous êtes toujours le patron des Métaboles, hein. Enfin non pas des Métaboles, je confonds toujours les ensembles. Multilatéral, l'ensemble instrumental.
J'en assure toujours la direction,
c'est ça, hein.
Direction artistique, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Puisqu'on a la chance d'avoir comme directeur musical Léo, qui est directeur musical aussi des Métaboles. Et on a pour volonté, avec Léo depuis un certain nombre d'années, d'étoffer un petit peu le répertoire pour chœur et ensemble. Il y a des belles choses, mais pas assez, à mon sens. Donc l'idée, c'est de susciter auprès des compositeurs, des créateurs, des rencontres avec des écrivains ou autres, et créer un répertoire. Ben là, en l'occurrence, on mélange multilatéral, les Métaboles et l'Orchestre National de Jazz dirigé par Olivier Benoît.
Voilà, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'ouvrir, parce que Yann Robin ou Raphaël Sindeau, ce sont des gens qui ont ouvert incroyablement l'écriture instrumentale ces dernières années. Et c'est peut-être un geste qui manque pour l'instant dans l'écriture vocale. Donc je trouve intéressant, à l'occasion de ces rencontres-là, d'ouvrir aussi dans l'écriture de chœur des nouveaux horizons.
Enfin, il y a une belle chose au XXe siècle, vous êtes toujours, je trouve, un petit peu dur. Au XXIe, c'est que ça a beaucoup évolué. Et bien, ce que vous avez fait écouter au disque, là, les Russes, les Américains.
Oui, il y a des belles choses, mais la recherche instrumentale que Yann Robin et Raphaël Sindeau sont les premiers à faire, pour l'instant, dans le chœur, je connais pas trop d'équivalent.
Ah oui.
J'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu des belles choses, mais on peut aller plonger encore plus loin dans l'inconnu pour trouver encore plus de nouveaux.
Oui, sauf que la voix, c'est fragile. En même temps, on ne pouvait pas faire la même chose avec une voix que ce qu'on fait avec un violon, un corps, un truc comme ça, si ?
Je pense que oui.
Si, je pense aussi.
D'accord. Il faut juste essayer de pousser un peu les gens dans les extrémités, c'est ça ?
Il faut avoir l'idée.
Il faut maîtriser son appareil phonatoire.
C'est pour les chanteurs. J'ai l'impression qu'il est redoutable, lui. Hein. Il faut qu'on fasse sa partition, fait que le chanteur, il chante exactement ce qu'il veut. Ça doit pas être facile, la répétition, Yann Robin.
Ah non, hein, c'est une main de fer dans un gant de velours. Hein.
Oui, c'est ça. Ah oui, mais j'ai plutôt le gant de fer et la main de fer. Oh, c'est ce que j'ai vu. Hein. Non, mais c'est très bien. Ça peut être moi, c'est le résultat qui m'importe, hein, rien d'autre. Bon, merci beaucoup, messieurs, d'être venus me voir.
On
va refermer cette émission avec une pièce à vous, Yann Robin. Ah, mais tiens, un mouvement de quatuor à cordes. C'est pas un mouvement, c'est votre deuxième quatuor à cordes qu'on va entendre là par le quatuor Tana, qui assurera d'ailleurs, je crois, bientôt la création d'un concerto. Enfin, bientôt, dans 2 ans, donc ça remonte, d'un concerto pour quatuor et orchestre, ce qui sera une drôle de chose à entendre, sans doute. Deuxième quatuor, donc, de Yann Robin. Thank you. Les dernières mesures du deuxième quatuor à cordes de Yann Robin par les membres du quatuor Tana. Yannick Hennel me disait que tu es en train de faire fuir tous les auditeurs. Mais non, c'est bien ça.
Moi j'adore. Non,
puis c'est presque drôle. Moi, j'ai tort de trouver de l'humour là-dedans, Yann Robin, dans la manière dont vous utilisez les instruments. Vous leur faites des trucs comme ça incroyables.
Je ne sais pas, après la perception d'une chose est propre à chacun.
Hein. Ah ouais, l'humour, vous non.
Ah si, beaucoup.
Ah si, beaucoup, d'accord.
Mais pas forcément bien. Face à ma part en musique.
Par rapport à celle-là.
Je le vois différemment.
D'accord,
c'est comme ma conception de l'amour à travers Vulcano.
J'entends bien, c'est notre histoire.
Bon. Il faut qu'on discute, Lionel.
Ah, d'accord, on va le faire après. Okay. Merci, messieurs. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, le Maud Nourry, Antoine Courtin, Sandrine Malon et Christian Larondès.
Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain avec mes invités Laurence Aquilbé, Julien Chauvin et Déborah Nemtenou. Et comme il sera question plein de fois de Gounod, le titre Un Gounod des Gounis.
J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Oui, Yann Robin, humour, un Gounod des Gounis, non c'est... Il est effondré.
Non, non.
Il est 23h sur France Musique.
Ça fait beaucoup rire, mon attaché de presse.
Oui, mais je crois bien, elle rit facilement, je la connais. François Bonnet pour l'expérimental.
À réécouter sur francemusique.fr.